Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8. Alizé Cheboub.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette 6e émission de Microcité. Alors on s'excuse pour les quelques couacs qu'il y a eu avant, mais bon, on est vendredi 13, hein, alors forcément, on a un peu la poisse. Mais bon, malgré la distance, cette semaine, on est en direct pour vous apporter toujours plus d'infos. Il est 16h47, vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble. Au programme de cette édition, eh bien le confinement et encore le confinement, mais c'est ce qui nous concerne tous en ce moment. Cette semaine, on se penche particulièrement sur la situation des commerçants, obligés de fermer si considérés comme non indispensables, moins fréquentés dans tous les cas, ils sont forcés de trouver des alternatives de vente pour ne pas sombrer. Nous ferons un tour des initiatives dans notre dossier. Et il y en a d'autres qui font preuve d'inventivité. Ce sont les coiffeurs qui ont décidé de se couper les cheveux en quatre pour le bien de la planète. Plus question de les jeter après la coupe. Les cheveux permettent aujourd'hui de fabriquer des filtres pour dépolluer les océans. Un sujet de Colline Mollard que nous découvrirons en fin d'émission. On reste ensemble jusqu'à 17h15, Microcité numéro 6, c'est parti! Et pour commencer, c'est l'heure du journal avec Corentin Bémol. Bonjour Corentin.
Bonjour Alizée, bonjour à toutes et à tous. Dans les bahuts, la semaine dernière, le ministre de l'Éducation nationale a autorisé les lycées à passer aux 50% en présentiel. Un vrai casse-tête d'organisation. Petit aperçu de la galère des profs dans un instant. Les manipulateurs en électroradiologie se mettent en grève à partir de mardi prochain, au lendemain du discours de Jean Castex sur la situation sanitaire. Ces professionnels de santé demandent une meilleure considération ainsi que plus de moyens. Vous entendrez l'un d'eux dans ce journal. Une figure centrale du djihadisme au Sahel tuée par l'armée française, l'annonce a été faite ce matin. La ministre des Armées, Florence Parly, salue dans un communiqué le succès de la mission. Baag Moussa était considéré comme l'un des principaux chefs militaires djihadistes au Mali. Fin des combats dans le Haut-Karabakh, le premier ministre arménien a annoncé lundi soir la signature d'un accord de cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan, un accord désastreux pour de nombreux Arméniens sous le choc.
Et on commence ce journal avec le discours de Jean Castex hier soir. Et une chose est sûre, la fin du confinement, c'est pas pour tout de suite.
Et ça risque même de durer jusqu'aux vacances de Noël. Ne pas relâcher nos efforts, mais les amplifier, a martelé Jean Castex. À retenir, les règles du confinement ne changent pas pendant les 15 prochains jours. Il y aura plus de contrôles de police et la France ne sera pas déconfinée le 1er décembre. Le Premier ministre évoque cependant la possibilité d'une réouverture des commerces début décembre. Il souhaite également un pseudo-déconfinement pour les vacances de Noël. Jean-Michel Blanquer l'a réaffirmé hier soir aux côtés du Premier ministre. Les lycées ont désormais la possibilité de passer aux cours à distance, à condition que tous les élèves conservent au moins 50% de leur emploi du temps en présentiel. Par demi-classe, par niveau, il appartient à chaque établissement de s'organiser, ce qui n'est pas toujours évident, Mathilde Cariou.
Le self, le CDI, la permanence. Et oui, le lycée, c'est pas seulement des salles de cours, c'est aussi un véritable espace de vie. Alice est en terminale à Mesquite dans le Finistère. Et dans son lycée, c'est un peu la galère.
On nous a demandé de faire un sens de circulation, sauf que c'est impossible vraiment de respecter ça. Il y a du monde absolument partout, les couloirs sont remplis et ils sont vraiment minuscules.
Même chose dans la file du self ou dans la cour. Et pour descendre la jauge d'élèves présents à 50%, ça demande beaucoup d'organisation.
Maintenant, avec le nouveau bac, on a tous des classes différentes, selon nos spécialités. Je ne sais pas du tout comment ils vont faire pour s'organiser là-dessus.
Alors si c'est compliqué dans les lycées, on ose à peine imaginer la situation des collèges qui ne sont pas concernés par les restrictions annoncées la semaine dernière. Anne Cariou est enseignante au VISAC à Guipava et elle trouve les mesures en place très insuffisantes.
Les classes sont extrêmement chargées, nous avons 30 élèves par classe en 3e et en 6e, ce qui fait qu'elles sont pleines et que donc les mesures de distanciation réelles ne sont pas respectées.
Des centaines d'enseignants se sont d'ailleurs mis en grève mardi dernier pour réclamer des mesures plus raisonnables.
Dans l'idéal, pour nous, il faudrait que nous ayons des groupes et non pas des classes entières.
Sans pour autant affecter la continuité pédagogique.
Garder les élèves ne serait-ce qu'une demi-journée par jour au collège est important. Il faut qu'il y ait une présence régulière, même si elle ne dure pas toute la journée.
Pour le premier confinement, le décrochage scolaire reste la grande crainte des enseignants. Il faudra donc trouver un juste milieu entre sécurité sanitaire et encadrement. Les manipulateurs radio de toute la France seront en grève mardi. Ces professionnels de santé qui s'occupent des IRM, scanners et autres appareils d'électroradiologie demandent une revalorisation de leur métier. Bastien Biollet et ses collègues manipulateurs radio à l'hôpital de Chambéry sont en première ligne face à la crise sanitaire.
En fait, on demande que notre profession elle soit plus reconnue. On est classé dans les médico-techniques à l'hôpital, ce qui fait qu'on ne nous accorde pas un petit peu toutes les primes qui peuvent aller aux soignants. Donc au final, sur une fiche de paye, à même niveau d'études avec un infirmier par exemple qui travaille aux urgences, on peut avoir jusqu'à presque 150 à 200 euros de différence. Mais c'est vrai qu'on est en première ligne, on fait les radios. Aujourd'hui, un patient qui est Covid et qui rentre à l'hôpital ou qui est suspect Covid, il aura au moins une radio thoracique, voire un scanner thoracique. Donc nous, on est vraiment amené à, à être proche du patient. On a une deuxième vague qui on qualifierait plutôt de tsunami par rapport à la première vague. Savoir qu'aujourd'hui, on est le département le plus touché de France. Il y a des départs en avion pour que nous, à Chambéry, on ait toujours la possibilité d'accueillir en urgence d'autres patients.
En moins d'une semaine, c'est environ une quinzaine de patients de l'hôpital de Chambéry qui ont été transférés par avion dans d'autres départements. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, une série d'attaques terroristes à Paris plongeait le pays dans la douleur. Le procès des attentats reprendra lundi après une suspension de 2 semaines. Ce matin, les commémorations se sont déroulées en comité restreint. Le Premier ministre, accompagné de Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti ainsi que des maires de Paris et Saint-Denis, se sont rendus aux abords du Stade de France ainsi qu'au Bataclan, les lieux symboliques de cet attentat qui avait fait en tout 131 morts. La France annonce ce matin la neutralisation d'un haut responsable djihadiste au Mali durant l'opération Barkhane menée par l'armée française au Sahel. Une frappe importante dans la lutte contre le terrorisme dans la région, Shannon Marini.
Oui, elle est en tout cas significative parce que Baak Moussa était très engagé sur le terrain, responsable de nombreuses attaques ces dernières années au Sahel. Il était considéré comme l'un des principaux chefs djihadistes au Mali. Il s'occupait notamment de former les nouvelles recrues. Baak Moussa dirigeait le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, l'une des forces djihadistes les plus importantes de la région. Il est notamment responsable de 2 attaques majeures au Mali en 2016 et en 2019. Elles ont fait plus de 40 morts au total. En tout cas, cette opération qui a neutralisé le chef djihadiste est aussi un signal fort de la position de la France sur le dialogue avec les groupes terroristes. Contrairement au gouvernement malien, Paris ne veut pas négocier et cette frappe affirme la ligne militaire de la France.
Et en Arménie, c'est la colère qui règne depuis mardi, après l'accord de cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh.
Après 6 semaines de combats meurtriers, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a concédé une victoire militaire à l'Azerbaïdjan. L'annonce a provoqué des manifestations avec des centaines de personnes investissant le siège du gouvernement et du Parlement. Christophe est un étudiant d'origine arménienne. Chaque jour, il prend des nouvelles de son oncle et sa tante qui vivent à Erevan, la capitale du pays.
Ça a été vraiment vécu comme une trahison. Et c'est pour ça que les gens sont mobilisés, sont dans les rues. C'était blindé encore. Il y a eu des grosses manifestations. Enfin, il y a un sentiment de haine un peu envers Pachinian parce qu'en gros, il a vendu le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Et les gens veulent vraiment qu'il se barre, en fait. Enfin, les Arméniens sont quand même attachés, en fait, au Haut-Karabakh et voulaient se battre, et même se battre quitte à mourir. Et je sais qu'il y en a pas mal de la diaspora qui sont allés combattre là-bas.
Semaine pour les gamers, 2 jours après la sortie mondiale de la Xbox série de Microsoft, la PlayStation 5 est enfin dans